Alors Étienne, dans l'épisode précédent, on a vu un peu cet imbroglio avec ses ducs, un duc Jean V qui règne assez longtemps, après des fils qui n'ont pas de descendance, des frères, ça nous va mener jusqu'à François II, oui. Très éloigné en fait dans la lignée, puisqu'on l'a dit 5 ou 6e.
Hein. Tout à fait, lorsqu'il naît en 1435, donc Jean V est encore au pouvoir, Jean V a donc deux fils, François Ier, puis il y aura Pierre II, Gilles qui est assassiné, comme on l'a vu dans l'émission précédente, et puis Richard d'Étampes, le père de François II, et enfin François II. Et puis à l'arrivée, ce François II, effectivement, va quand même arriver au pouvoir d'une manière assez surprenante, finalement, puisque François Ier n'aura que des filles, Pierre II n'aura pas d'enfants, Arthur III, Arthur de Richemont, se marie 3 fois mais n'a pas d'enfants. Et donc on arrive à François II, comme ça, d'une manière vraiment très surprenante, en 1458. Ce n'est pas vraiment un Breton, pour être exact, c'est un jeune prince français, c'est le fils de Marguerite d'Orléans, il a vécu finalement beaucoup plus à la cour du roi de France, il découvre un peu la Bretagne en devenant duc de Bretagne.
Est-ce que c'est quand même, d'après toi, c'est vraiment un tournant, parce que c'est déjà peut-être assez rarissime en Bretagne, mais peut-être dans d'autres régions de France, d'avoir un tel imbroglio dynastique, on va dire, quasiment.
C'est incontestablement un tournant, parce que sa légitimité, il va falloir qu'il la gagne un petit peu, on va dire, à la pointe de l'épée. En plus, c'est un prince un peu dilettante. Le roi de France est évidemment certain d'avoir prise sur lui, surtout que lui, il arrive en 1459 au pouvoir, hein. Il est sacré en 1458 à Rennes et en 1459 il s'installe à Nantes. Alors 2 ans plus tard, c'est Louis XI qui devient roi de France.
C'est ce que j'ai dit, il va avoir en face de lui un des souverains les plus redoutables de l'histoire de France.
Et donc là, on va se retrouver dans des périodes un peu particulières avec les guerres, enfin guerre folle, guerre du bien public, tout cela. Ouais. À chaque fois, il va participer. Une première fois d'une manière un petit peu lâche, on ne sait pas trop véritablement ce qu'il veut. Et puis finalement, plus on va aller vers la fin de son règne, dans les années 1470-1480, le pouvoir royal s'affermit, il perd beaucoup de soutien. Et puis lui-même a du mal à assurer sa descendance. Sa vie relativement dissolue est plus marquée par la beauté de sa maîtresse, Antoinette de Maignelais, qui est la nièce d'Agnès Sorel, que par sa volonté peut-être de construire finalement une famille ducale. C'est vraiment quelqu'un de particulier. Et parallèlement, à Nantes, il joue quand même un grand rôle parce qu'il lance ou il maintient des grands chantiers. Et notamment, il veut faire du château médiéval, qui était en gros un outil de défense. Il veut faire désormais un château pratiquement, on s'approche de la Renaissance, quoi, un château confortable, un lieu relativement luxueux. C'est un prince un peu compliqué. Il a une histoire un petit peu diffuse, mais en tout état de cause, c'est vraiment un prince de la fin du Moyen Âge, quoi. On est déjà à cheval entre le guerrier et le châtelain.
Oui. Est-ce qu'il est le fait, tu disais tout à l'heure qu'il était francophile ou français d'origine, hein, dire, c'est important ça. Est-ce qu'il va s'imprégner réellement de l'histoire de sa région, justement?
Oui. Disons qu'il va considérer qu'à partir du moment où il est duc de Bretagne, il est très content. Il se dit maintenant que je suis duc, je suis souverain. En plus, en 1458, il y avait une certaine souveraineté du duché. Ça dépassait le cadre de l'autonomie. D'ailleurs, en 1460, il se débrouille pour avoir l'aval de la papauté pour ouvrir une université, qui sera la seule université de Bretagne à ce moment-là. Donc, effectivement, il a à la fois l'influence de son éducation de la cour de France, et puis en même temps, il essaye un peu de connaître l'histoire de ses ancêtres, parce que c'est un descendant des Montfort. Même s'il est arrivé très indirectement au pouvoir. Et puis, il essaye finalement de reconnaître, je dirais, la suzeraineté du roi de France sans lui rendre l'hommage lige que souhaite le roi. C'est-à-dire, c'est toujours une cause un peu de conflit. Et il entretient bien ce conflit, oui.
Voilà, on a abordé François II, mais bon, on peut peut-être refaire un peu marche arrière et revenir sur ce qu'était, par exemple, les Marguerites de Bretagne, par exemple. Peut-être revenir un peu sur de Richemont, qu'on a évoqué dans l'épisode précédent, mais peut-être aussi revenir un petit peu sur lui, qui arrive au duché. Alors, il est duc à 63 ans, quand même.
Richemont va être duc à 63 ans. Alors, effectivement, lorsqu'il arrive à Nantes, lui aussi, hein, puisque ce sera leur lieu de pouvoir politique, c'est un vieux bonhomme et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, mais on peut faire un tout petit détour quand même avant, parce que en fait, Marguerite de Bretagne, qui va épouser François II, c'est vraiment quelqu'un d'un peu particulier, puisque son père François Ier et sa mère Isabelle d'Écosse vont donc la marier avec François II, ils sont petits cousins, et donc on peut effectivement se demander ce qui se serait passé si Marguerite avait pris le pouvoir, si elle avait épousé quelqu'un d'autre, si elle avait eu un enfant, etc. Parce qu'en réalité, si on s'était véritablement placé dans ce qu'est le fonctionnement de la dynastie bretonne au XIIe, XIIIe siècle, XIVe siècle, Marguerite de Bretagne était souveraine. Et il n'y avait aucune raison de la marier avec un cousin pour affermir, mettre un mâle là-dedans. Elle était souveraine. Bon, après, les choses se sont déroulées comme ça. Donc, à la mort du duc, Marguerite, qui est mariée avec François II, se retrouve duchesse. Et puis, c'est la mort de Richemont, qui finalement est relativement précoce, puisqu'il meurt à 64 ans, mais il n'a été duc que pendant un an et demi, qui bouscule un petit peu tout. On pourrait très bien imaginer également que Richemont aurait eu des fils. Il a été marié trois fois tout de même, hein, avec des princesses de haut rang. Donc on aurait très bien pu imaginer cela. Il se trouve que désormais, on est en 1458, maintenant les choses sont ainsi. Hein. François II est sur le trône, et il est l'époux de Marguerite de Bretagne, qui est sa petite cousine. Ils n'auront pas d'enfants de toute façon, hein, et donc le règne de François II commence et il s'achèvera au moment où, en 1488, ce sera sa fille Anne qui sera duchesse.
Tu avais évoqué tout à l'heure, on a parlé de cette guerre de la Ligue du bien public. Tu peux y revenir, nous expliquer un peu ce qu'il en est?
Oui, c'est tout simplement que les grands féodaux se ligue un peu contre Louis XI. On est en 1465, je crois. Et Louis XI est au début de son règne, et puis il sent bien de toute façon que ça va rapidement, ça va un petit peu changer, parce que les Charles VI le Fou, Charles VII, etc., étaient des rois relativement tendres par rapport à Louis XI, le fameux roi araignée, comme on va dire, qui se présente. Et puis finalement, il va y avoir une grande bataille. Le roi va gagner cette bataille, d'autant mieux que François II est ligué contre le roi, mais comme par hasard, il arrive après la bataille avec son armée, enfin avec sa petite armée. Le roi lui pardonne. C'est très compliqué. En fait, on peut penser qu'il avait pratiquement trahi ses alliés. Et on ne retrouvera pas ça, par contre, à partir de 1485, lorsqu'on arrivera dans cette guerre folle, où là, cette fois-ci, François II sera à peu près tout seul pour affronter le roi qui désormais n'est plus Louis XI, puisqu'à la mort de Louis XI, c'est Charles VIII. D'abord la régente, hein, c'était la sœur de Charles VIII, et puis ensuite Charles VIII qui seront à la tête du pays.
On peut peut-être, on a quelques minutes hein, encore pour évoquer le Nantes de cette époque.
Hein, oui. Le Nantes de cette époque, d'abord, il y a toute une organisation administrative qui surprend un petit peu, c'est-à-dire que les Nantais, déjà, désignent, on ne va pas dire qu'ils élisent un conseil municipal, mais ils désignent des représentants. Le Nantes de cette époque, c'est un Nantes également où le duc confie un certain nombre de tâches à des gens, alors le sénéchal par exemple, enfin il y a la police, il y a la justice, etc. Il y a toute une réelle organisation. Autour du duc également, il y a tout un secrétariat, hein, et tout ça, ça fonctionne, c'est dans le château. Il y a des représentants également des puissances étrangères. Et puis à côté de ça, il y a la ville avec son commerce, son impact commercial, sa puissance économique, qui n'est pas énorme quand même, mais c'est aussi sur cette puissance économique que le duc peut s'appuyer. Et puis, il paye même des gens, notamment des archers, c'est-à-dire qu'on a véritablement l'embryon d'une armée professionnelle. Donc tout ça, ça grouille un petit peu dans Nantes. Et le fait qu'il y ait une cour relativement riche, qui vive dans ce château qui est donc amélioré, hein, on l'a dit, eh bien, cette cour, elle est cliente, finalement, de tous ces artisans, de tous ces commerçants nantais. Et ça influence, ça joue beaucoup sur le développement économique de la ville. De même que le fait que la ville de Nantes soit un port, hein, et c'est un peu un port de transit, c'est-à-dire on est vraiment entre la Loire d'un côté, c'est-à-dire le trafic fluvial, et puis de l'autre côté l'estuaire qui nous amène sur le trafic maritime.
Et les Bretons en général, ou les Nantais en particulier, bénéficient aussi de cette,
oui,
de ce relatif bonheur, disons, de ces, oui, de ces richesses.
Oui, bien sûr, tout le monde n'en profite pas. Hein. C'est aussi un temps avec des vagabonds et des mendiants. Les hivers sont parfois rudes, mais oui, relativement, parce que les... Bon, Nantes n'est pas véritablement une ville, comment dire, une ville très industrielle, hein, une ville qui fabrique beaucoup. C'est surtout une ville commerçante. C'est une ville de relais. Ça dégage, encore une fois, pas mal de bénéfices, pas mal d'argent, et il y a pas mal de quartiers qui se développent, notamment des quartiers bourgeois.